Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue très fort à nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jarre, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, une belle petite journée de printemps, pas trop enneigée, c'est pas pire. Fait que, tu sais, on n'a pas vécu une éclipse dernièrement, nous autres? Je pense que oui, hein? Fait que c'est de ça que je voudrais parler en premier. Moi, je m'attendais pas de vouloir beaucoup aimer ça. Puis quand c'est arrivé, j'aimais ça, j'étais... hyperactif, c'est-à-dire que j'étais présent à la télé et en même temps, j'allais dehors voir, sentir la noirceur et le refroidissement. Puis aussi, j'allais voir dans la boîte que ma compagne avait faite pour examiner l'éclipse sans danger pour les yeux. Puis quand l'éclipse totale est arrivée, bien, j'ai regardé une couple de fois, c'est imprimé dans ma mémoire, le disque noir entourant le soleil et ça faisait comme un trou, un néant. Fait que je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait jouer Dark Side of the Moon en même temps, tu sais. Puis je sais que son amie voulait qu'il arrête d'écouter ça pour elle-même puisse entendre le déclin des sons des oiseaux, tu sais, en tout cas. Fait que c'est très impressionnant. Puis je me suis rendu compte en lisant le Journal de Montréal le lendemain que la CEPAC s'était préparée pendant 7 ans pour tout ça, CEPAC Mont-Mégantic. Et que les scientifiques à 24-60 s'étaient préparés pendant 3 ans. Et que, bon, finalement, tu sais, pour vivre le moment présent, soit environ 3 minutes. Et peut-être au total, là, comment ça a duré, 1 heure? En tout cas, 2 heures. Et puis, le gros, c'était 3 minutes. Et puis, donc, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a tellement eu de préparation avant. Et il y a eu un vécu intensif pendant, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe après. Moi, je pense qu'on devrait beaucoup faire après. C'est-à-dire, plus concrètement, c'est mettre en place un dialogue post-éclipse ou une réflexion post-éclipse. Ça pourrait être un cercle de réflexion, plusieurs cercles de réflexion, où les gens... disent les impressions qu'ils ont eues, les ressentis qu'ils ont vécus et les idées qu'ils ont eues. Moi, j'ai eu beaucoup d'idées, là. Par exemple, tu sais, la noirceur, j'en ai fait une métaphore. La noirceur, on peut voir le bien et le moins bien de la noirceur, dans le sens que le bien, c'est que la nuit, c'est grâce à la noirceur qu'on a un sommeil. C'est grâce à ça qu'on a de la santé, tu sais. Là, on a besoin de la noirceur pour vivre. Mais métaphoriquement, la noirceur, ça peut être synonyme de terreur, détresse, souffrance, pauvreté. Et la lumière, c'est douceur, compréhension, intelligence, qualité de vie pour tout le monde, etc. Puis le refroidissement, mais, tu sais, ça peut faire penser à changement climatique, mais aussi ça peut faire penser à... îlots de fraîcheur, des choses comme ça. Fait que ce sont toutes des idées dont on pourrait parler dans un cercle de réflexion post-éclipse. Fait que je le suggère fortement aux journaux locaux, aux médias locaux, moi, que personne n'écoute. non, c'est une blague. Fait que, donc, c'est ça. Fait que ça, pour l'éclipse, c'est dit. Et ce matin, je recevais dans mes petits courriels du Rocky Mountain Institute. Ça, c'est l'Institut du gourou de l'efficacité énergétique qui est Amory Lovins. Il y a un article de Bill McKibben, le fondateur de 350.org sur la question climatique. C'est en anglais, mais je suis certain que vous aurez votre traducteur qui pourra vous le traduire en français. Le titre, c'est « The next few years will decide what kind of future we'll leave for my grandchild ». Ça veut dire les prochaines années seront celles qui vont décider de quelle sorte d'avenir va vivre mon petit-fils. Autrement dit, 2030. C'est ce qu'on fait à 2030, c'est ce qui va décider. Puis après 2030, si on s'est bien engagé, on va pouvoir bien continuer. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, bien, c'est ça. Qu'est-ce qui nous arrive aussi, là? Bien, c'est le Festival des films du monde. C'est merveilleux, cette histoire-là. Fait qu'il y a eu, à l'ouverture, un film que j'ai pas vu, « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». C'est l'histoire du frère Marie-Victorin. Quelqu'un n'a pas trouvé ça si joli. Mais il va revenir. Mais moi, je sais que c'est inspiré d'un livre de Marie-Victorin, c'est « Les lettres biologiques ». C'est la correspondance, là, entre lui et une collaboratrice au sujet de la sexualité. Thème que la morale du temps interdisait d'examiner. En tout cas, fait que c'est ça qui est ça. Et puis, hier, moi, j'ai vu le film « Soleil Atikamekw ». Soleil au pluriel, j'ai beaucoup apprécié. C'est un film très bien fait à propos d'une très grande tristesse. Je ne vous dirai pas le scénario, mais c'est quelque chose de triste qui est encore à régler, qui s'est passé à Manawan il y a peut-être une cinquantaine d'années. Alors, c'est un bon film. La réalisatrice était là. Et puis, j'ai aussi vu, dans la même journée hier soir, le film Malartic. J'étais particulièrement intéressé parce que j'y suis né. Même si je n'étais plus là à 2 ans, c'est encore dans ma mémoire, à la surprise de ma compagne. Comment ça fait que tu penses à ça? Tu étais là juste 2 ans. Et puis, il y avait des très belles plongées qui nous faisaient voir le grand trou de la mine d'or par un drone, je pense. Et puis, bon, voilà, ce film-là va revenir. Soleil Atikamekw va revenir. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, vont revenir. Et dans la tribune d'aujourd'hui, il y a un article à propos d'un film qu'il va y avoir à midi et demi, Éloge de l'ombre. Je vous suggère d'aller le voir. Moi, je ne pourrais pas. Mais j'aimerais bien qu'il revienne au cinéma. Et à 14h30, il y a le film au Baobab gratuit, c'est « Va vers toi ». Fait que je vous suggère d'aller voir ça aussi. Moi, je vais y aller. Fait que, en tout cas, c'est des bons films. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Ah bien, ma chronique d'art écologique, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Malartic, c'est un art qui montre l'anti-écologie qui se passe à Malartic. Et Soleil Atikamekw, c'est un art qui montre parfois des comportements anti-humains, mais aussi, il y a des aspects brouillards dans la forêt, très poétiques. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est bon. Fait que dans la tribune ce matin, justement, l'article là, sur Éloge de l'ombre, ça, c'est une manière de parler du temps, de la fragilité et de l'évanescence, selon la réalisatrice. Ça nous fait ressentir ce qui est autour de nous. Alors, c'est à peu près déjà fini pour la chronique art écologique. Je vous reviens. Je vais faire jouer M. Desjardins qui a fait la musique du film Malartic.
Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en reste tranquille, m'a payé mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en mettre des bobettes. M'a lire la gazette, m'a checker les sports, m'a compter les morts. M'a passer mon check-up, m'a va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, m'a m'forcer en ciboire. Quand je vois des mongons, pas d'alcool, pas de tabac, je vais avoir l'esprit d'équipe, impliqué tout le kit. M'a crampé en masse, m'a m'tailler une place. Quand je vois des mongons, m'a gravir les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop m'estader, ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand verrai mon gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party, des sushis, des trempettes, amène-en, m'en en mettre. Maman débouche une fois n'est pas coutume. Ah là, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TPK, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit c'est dehors, m'a sauté dans mon char, m'a descendre à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendre en enfer. M'a flobé ma paye, m'a les vendre des bouteilles, m'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal, m'a viré sur le tapote, cadran, pote, capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front, elle va dire enfin un bon gars. Abre ça, ma ouais, les bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille, m'a payé mes billes, m'a va prendre l'anglais, m'a la prendre pour le vrai. Oh, sport, smart and blood. Ils vont m'aimer en érode, excellent citoyen, pas parfait, mais pas loin. M'ont mangé du poisson, m'en va faire du ski de fond, m'ont m'acheter des records de Michel Rivard, m'ont faire semblant que c'est intéressant. Quand ouais, Raymond gars, pas d'alcool, pas de tabac.
Merci Richard Desjardins. C'est lui qui a fait la musique du film. Il était beaucoup plus tranquille dans cette musique-là que d'habitude. Fait que je vois quand même... Même si j'ai dit que la chronique est terminée, c'est pas tout à fait vrai. J'ai d'autres choses à dire sur les films. Tout d'abord, félicitations à M. Paquette qui a fait ce film-là, Malartic. Il a déjà fait Règle d'or à propos de Malartic. Et puis là, mais 11 ans après la réouverture, parce que mon père a déjà travaillé là. Ça a fermé un bout de temps, apparemment, je sais pas trop. Fait que M. Paquette regarde Malartic après ça, puis on voit l'énorme trou à côté de la petite ville de 3000 personnes. Et il y a des très belles entrevues. Geneviève Brisson, par exemple, une anthropologue. Et puis l'autrice d'un livre qui c'est Le droit du plus fort. Et le film nous fait comprendre l'échec du droit à Malartic, parce que c'est le droit du plus fort qui gagne sur le droit des pauvres. Le déficit démocratique. Fait que c'est ça, il fait des belles entrevues qui nous fait comprendre ça. Et Le Devoir a fait un article. Malartic, à qui profite la mine, moi? C'est 27 février 2024, à propos du combat David contre Goliath. On voit tant de richesses à côté de tant de misère. C'est dans ce sens-là que je fais un parallèle avec l'éclipse. Tant de misère, c'est la noirceur. La noirceur, l'éclipse a révélé en l'absence du soleil qui a eu comme résultante la noirceur. Et ça pourrait être le contraste entre misère et richesse. Et puis ça me permet aussi de dire un mot sur celui dont je vous ai parlé assez souvent, Buckminster Fuller, cet architecte du dôme géodésique sur l'île Notre-Dame. Ce monsieur qui a travaillé ici à Sherbrooke en 1914 à l'âge de 19 ans au Moulin en coton sur la rue du Pacifique, ce que personne ne sait apparemment, y compris le musée de l'histoire de Sherbrooke, parce que c'est ici qu'il a appris à collaborer avec d'autres travailleurs et il a appris aussi à faire un cahier de notes qui l'a suivi toute sa vie. Puis c'est ça, Fuller, justement, en 1980, dans son livre « Critical Path », il a dit qu'on est capable maintenant, avec la technologie et le savoir qu'on a, d'éliminer toute la misère physique, en tout cas. L'humanité serait capable de se donner une belle qualité de vie sans nuire à l'écologie et sans violence pour arriver. Si on avait fait ça en 1980 avec son plan d'une durée de 10 ans, eh bien aujourd'hui, on se serait comme ça. Il n'y aurait pas de guerre, puis l'écologie serait beaucoup moins maganée. C'est dans ce sens-là que je dis que je compare Malartic, l'éclipse et Buckminster Fuller. D'autre part, il y avait Le soleil Atikamekw, le livre. Là. Il y a aussi un article dans Le Devoir. C'est le 5 avril 2024. Soleil Atikamekw, des vies en suspens. L'autrice nous dit, la réalisatrice là, nous dit, Le Devoir revient avec sensibilité sur une tragédie pour laquelle justice n'a jamais été rendue. Et il dit, Le Devoir, que c'est une poésie visuelle. C'est un film douloureux, mais aussi lumineux. Il y a une séquence onirique. Un champ de fleurs fuchsia nappé d'une étrange et belle fumée, tantôt par l'entremise d'une scène du quotidien. Et puis, plus tard, on voit aussi un cheval qui a un rôle très important. Et je vais terminer cette chronique sur l'écologie, sur l'art écologique, en vous parlant de la Fondation Grantham, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est une fondation pour l'art et l'environnement. Et on nous dit qu'en en mai, il va y avoir une sortie de la capsule numéro 13, écrite par Jensiane Bélanger, dans le cadre du Jour de la Terre. Allez voir ça, le Jour de la Terre, à Fondation Grantham, leur capsule. Ensuite, au mois de mai, le 4 mai, ce sera « La carte n'est pas le territoire ». C'est une exposition de Karine Bonneval sur les lieux de la Fondation Grantham. Puis il y a aussi le lancement du cahier 09, faisant suite à la résidence de recherche et de création en architecture à la Fondation par Jérémy Dussault-Lefebvre et Sébastien Roy. Alors, c'est déjà le temps d'une publicité. Je vous reviens. Bonjour, ici Claude pour Anneau le futur. CFAQ s'excuse parce qu'il y a encore des anciennes publicités de films qui ne sont plus ici. En tout cas, on va essayer de corriger ça. Fait que l'autre jour, lorsque je suis retourné chez moi en autobus à la fin de mon émission, c'est-à-dire jeudi dernier, je voyais sur l'autobus une publicité, ça disait... je ne m'en souviens pas exactement, mais... Ah oui, c'est ça. Samedi, prenez du temps pour vous. En parenthèse, Journal de Montréal. Moi, ma réaction immédiate, ça a été, voyons, c'est pas juste samedi qu'on peut prendre du temps pour soi. C'est toute la semaine, tous les jours. Écoute, il faut prendre soin de soi, là. C'est une nouvelle morale, ça. Il faut prendre soin de soi, de sa santé, de son corps, de son mental, de son intellect. Et ça m'a fait me rappeler que j'ai un livre qui s'appelle « La puissance des liens », dans lequel il est dit que nous devrions porter attention, créer des liens avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Avec les autres et avec la nature, nous en entendons pas mal parler. Mais avec soi-même, on dirait qu'il y a un petit déficit. Alors, j'ai pris quelques extraits de liens avec soi, tu sais, dans ce livre-là que je vous partage. Donc, à la page 20, on dit que le lien à soi est aussi en souffrance. Il est, lui aussi, à restaurer. Il s'agit de la relation que l'on a avec son propre cœur, un cœur entendu au-delà même de la capacité à ressentir ou éprouver quelque chose comme un organe spirituel qui nous relie à l'infini. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire d'intéressant à propos du lien à soi? J'ai perdu le 181, bon, en tout cas. C'est, faut aller vite, hein, des fois. Fait que... À la page 216, on dit, c'est Tara Brach, B-R-A-C-H, qui dit « Comment devenir sa propre meilleure amie? » C'est une psychologue américaine. Puis, elle nous invite à un engagement total et compatissant dans notre monde. L'autocompassion peut se déployer lorsqu'on établit un contact direct et honnête avec sa propre vulnérabilité. Cette compassion ne peut s'épanouir complètement que lorsqu'on porte une attention bienveillante envers soi-même. Mais souvent, quand on est coincé dans la transe d'insuffisance, il semble impossible d'éveiller cette autocompassion. Pour aider ceux qui souffrent dans ces sentiments d'insécurité et de déficience, je propose une méditation d'autocompassion que j'appelle RAIN, un acronyme qui signifie « pluie » en anglais. C'est un moyen mnémotechnique utile pour pratiquer la pleine conscience de l'autocompassion. Il y a 4 étapes. Reconnaître ce qui se passe, accepter l'expérience entièrement, investiguer avec soin et curiosité, et finalement, nourrir avec autocompassion. Donc, tu sais, c'est à peu près ça. Il y a le psychiatre Christophe André qui a des bons mots sur prendre soin de soi là-dedans, dans ce livre-là. Je vous rappelle le titre, c'est « La puissance des liens ». Évidemment, il y a le philosophe Bidard qui a écrit le livre, déjà, c'est où il nourrit le triple lien. C'était quoi, donc? C'était pas tendresse ordinaire, mais c'est... En tout cas, c'est l'étisserant. L'art de créer des liens avec soi-même, avec les autres, pour réparer le tissu déchiré du monde, dit-il. Et puis, bien, il y a des choses spontanées qui se passent dans la vie, n'est-ce pas? Fait que l'autre jour, je suis allé à la librairie Appalaches et j'ai vu le livre « Ce que savoir veut dire ». Alors, il y a des très bonnes pages, par exemple, à la page 190. Faut tomber vite là-dessus hein, quand on fait une émission. Un savoir sur le savoir comme héritage, le pouvoir de la vérité. Par exemple, que serait l'état du monde aujourd'hui si personne n'avait osé crever ses nombreux tabous politiques, historiques, psychologiques et sexuels, identitaires qui ont empêché tant de générations d'exprimer la cause de leur oppression. Et les vertus du choc anthropologique et également une réflexivité, c'est un principe au cœur de l'intelligence, c'est ça que le sens du savoir. Là. À ce chapitre, une forme de réflexivité toute particulière s'est illustrée dans ce livre, celle qui est liée au temps. Si le passé ne peut être ignoré, car il résume tout ce qui fait le contexte du présent, le futur traverse encore plus de récits liés à l'importance du savoir dans une vie. Et il n'est pas ici question seulement de souligner la gravité des enjeux environnementaux. Le futur a des propriétés qui le font s'imposer à tant de raisonnements politiques, économiques et moraux. Que serions-nous sans cette certitude d'avoir un avenir? L'humanité a besoin de cette permanence à l'esprit. Cette certitude que demain existera peut empêcher les comportements antisociaux, multiplier les comportements vertueux et éviter d'éveiller tout ce qu'il y a de pire en société. Chercher à préserver le futur, autant le sien que celui des autres, par des constants gestes quotidiens, afin de léguer un avenir viable, est peut-être la forme la plus méritoire de réflexivité. Alors, hurra pour nous le futur. Alors, ici Claude, un petit peu de pause musicale. On y va. Moi, j'espère que ce ne sera pas une publicité qui va arriver. OK. Alors, Roméo Bouchard, dont je vous parle parfois, a écrit un article qui s'appelle « Le coup de sonde, la stratégie de Legault ». Tout le monde en remettait en février à propos de l'échec de François Legault à faire plier Ottawa devant la demande du Québec en santé, immigration, reconnaissance de notre statut national, défense du français, etc. Que reste-t-il à Legault comme solution de rechange? De toute évidence, un recours direct au peuple. Là, je saute quelques paragraphes. Le seul recours valable à l'exercice de la souveraineté du peuple québécois demeure, selon moi, la convocation d'une assemblée constituante représentative avec mandat de consulter la population et de proposer le texte d'une première constitution du Québec. Alors, pour être clair, ce qu'il veut dire, c'est une constitution écrite par le peuple, une écriture citoyenne de la constitution. Alors, lui, il fait partie du mouvement Québec démocratie, MQDC, Mouvement québécois pour la démocratie. Et puis, ils ont publié aux dernières élections une plateforme électorale non partisane du MDCQ. Alors, si je parle de cette plateforme-là, c'est parce que tout à l'heure, je vais parler dans le dossier énergie et dans le dossier agriculture du plan du parti politique Climat Québec de Martine Ouellette. Alors, je fais tout simplement montrer l'existence de ce parti et quelques bons points qu'il a. Sans vous dire de voter pour, je demeure objectif dans mon choix, mais le choix fondamental, c'est la non-partisanerie. Et puis, j'ai un autre article intéressant, c'est la crise sanitaire et la quatrième crise écologique. Bon, la crise sanitaire, c'est un problème environnemental. Les perturbateurs endocriniens sont l'exemple type du décalage entre la connaissance scientifique et la définition des politiques publiques. On dit que la croissance des maladies chroniques est qualifiée par l'OMS comme une épidémie mondiale. Et dans un autre article, c'est les perturbateurs endocriniens et maladies métaboliques, c'est un défi majeur en santé publique. Ça, ce sont des articles français du CAIRN. Je ne sais pas quel organisme que c'est, mais c'est, en tout cas, c'est André Ciccolella qui a écrit ça. C'est l'auteur de Toxic Planet, un excellent livre sur peut-être la perturbation de notre santé par la toxicité de l'environnement général et d'une hygiène chimique à prendre l'habitude de se donner, tu sais, par rapport à ça. Fait que, je vous reviens, un petit peu de musique. Rebonjour, ici Claude Saint-Jean pour À nous le futur. Je voudrais dire une couple de mots supplémentaires à propos de ce que je propose, un cercle de réflexion post-éclipse. Non seulement un cercle de réflexion où nous nous dirions entre nous nos ressentis, nos vécus, nos idées, mais de façon systématique. je veux dire par systématique, en s'aidant de stratégies cognitives. Par exemple, à l'Université du Québec à Rouen, il y a le professeur Pierre Audy qui a inventé une stratégie de réduction de problèmes API, c'est actualisation du potentiel intellectuel. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pas à faire. Par exemple, il faut bien observer. Là-dedans, tu as 19 manières de diriger l'attention pour bien observer. Ensuite, mémoriser. Tu as 7 attitudes à avoir pour bien mémoriser. Généraliser, tu en as 4. Et pour rechercher des solutions, tu as 18 possibilités. Exemple, c'est me servir de ma logique, vérifier mes hypothèses, faire le point sur mes progrès vers la solution. Et dans la créativité, tu en as 6. Être ouvert à ses intuitions, recourir à l'imaginaire. Puis l'output, c'est-à-dire la réponse, tu as 10 possibilités. Tu sais. Ensuite, tu as le support affectif, contrôler mon impulsivité dans un cercle de réflexion post-éclipse. Eh bien, on anticipe les bénéfices de cette discussion, on se parle positivement, on peut croire qu'on peut réussir à bien le faire. Et finalement, on peut avoir un support des ressources. Exemple, utiliser mon langage interne, utiliser mes images mentales. Donc, c'est ça. Fait qu'allez voir Stratégie de réduction de problèmes API. C'est Pierre Audy qui a inventé ça en s'inspirant d'un Israélien, Reuven Feinstein, qui est décédé, et puis aussi de Steinberg, un psychologue qui s'est illustré par l'idée des street smart. C'est une sorte d'intelligence, les gens qui sont l'intelligence de la rue. Et ce matin, dans Good News Network, j'avais des photos prises de la station internationale orbitale. C'est très beau. On voit l'ombre de la Lune exactement sur la Terre, là, qu'on a vécu ici. Là, on se voit nous-mêmes de haut. Fait que c'est super. Good News Network d'aujourd'hui. Et finalement, pour le cercle de réflexion, ce qui pourrait nous aider à faire une réflexion organisée, c'est s'inspirer du livre « Réfléchir mieux » de Édouard de Bono. Je regarde la table de matière dont je vous parle. Il se dit que réfléchir, c'est une technique. C'est une technique. Il faut penser lentement pour bien penser. Et puis, il faut s'entraîner à faire un plus moins intéressant. Ça s'appelle un PMI. Par exemple, concernant la noirceur que nous avons vécue, c'est quoi qui est intéressant par rapport à la noirceur? Qu'est-ce qui est moins intéressant ou est-ce qui est intéressant, tout simplement? Fait qu'il parle de la pensée latérale, de l'apport de l'art, comment utiliser l'information et comment parler avec les autres, c'est-à-dire comment négocier, communiquer. Pour faire ça, il parle de ADRAV, accord, désaccord, rien à voir, tu sais. Quand tu veux faire ça, là. De l'affectivité, comment prendre des décisions, et savoir penser, savoir faire, il donne des façons de penser, par exemple, se fixer des objectifs, comme ABO, aspiration, but, objectif. Il dit comment faire un cercle de réflexion, et voilà, tu sais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc, le cercle de réflexion post-éclipse, c'est une suggestion que je vous fais. Société cherbourgoise et québécoise. Maintenant, 11h34, il reste 16 minutes pour deux dossiers. Dossier énergie. Je commence par le dossier énergie et je m'inspire de Climat Québec, le parti de Martine Ouellette. Qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans? C'est, encore une fois, Roméo Bouchard dans sa page Facebook qui montrait un lien. La conférence de Martine Ouellette sur l'énergie. Une conférence super intéressante parce que c'est une ingénieure hein, qui a un point de vue scientifique. Elle parle finalement, tu sais, le gaz naturel et on devrait se libérer de ça. Elle dit, je me souviens que l'usine de ciment Mekaniss, elle le fermerait tout de suite, elle, parce que c'est une mauvaise décision. C'est ça qui fait le plus de pollution de GES au Québec. Et elle critique Roméo Bouchard qui a commencé la privatisation, pas Roméo, Lucien, qui a commencé la privatisation de tout, tu sais. Et puis Mme Marois, qui a cédé au lobby. Fait que dans le texte fondateur de Climat Québec, elle dit que ça prend absolument un nouveau pays pour agir véritablement à propos de l'urgence climatique, c'est-à-dire le Québec pays. Elle dit que le Canada est un pays voyou sur le plan environnemental. C'est assez radical comme opinion, on va dire. Pour elle, je crois que c'est un fait scientifique. Alors aussi, elle dit que c'est un communiqué de un communiqué de Climat Québec. Elle dit que la CAQ doit cesser d'instrumentaliser la transition énergétique et favoriser les lobbies. Parce qu'il s'est passé un gros phénomène, là, c'est que nous sommes passés d'un état de suffisance énergétique, c'est-à-dire de surplus d'énergie, à soudainement, en quelques mois, à une rareté de l'énergie. Pourquoi? C'est parce que la CAQ a pris des très mauvaises décisions. Elle dit que par ces deux contrats d'exportation de l'électricité aux États-Unis et par le rabais de 20 % accordé aux industriels, elle a réussi, la CAQ, à dilapider les surplus d'électricité qui auraient dû être précieusement gardés pour notre transition énergétique. Alors, c'est un bon point de vue. Et puis, dans l'article qu'on trouve aussi dans le site de Climat Québec, il y a le projet éolien des neiges doit être abandonné. Premièrement, elle dit que la justification pour faire ça, c'est trompeur. Deuxièmement, que le privé n'a pas sa place. Et troisièmement, que la localisation est mal choisie. Premièrement, moi-même, je n'étais pas au courant qu'il y avait le projet éolien des neiges. Finalement, ça veut dire que ce sont des industries privées qui s'accaparent de notre puissance éolienne pour ses propres besoins. Et c'est nous qui payons. C'est 11 milliards, le Québécois, qu'on paye pour les industries. Finalement, je pense que je le disais la semaine dernière, on paye pour se faire voler. Et je n'exagère pas beaucoup. Ensuite, page 12-13, là, je vais vous dire ça, c'est quoi? Climat Québec dit, dans ses recommandations, là, Nous devons changer nos pratiques. Nous constatons à l'évidence que la croissance à tout prix et la création de richesses ne profitent qu'aux grosses corporations et à leurs actionnaires qui ne se trouvent jamais assez riches et appauvrissent trop souvent la qualité de vie des citoyens et citoyennes. L'État, avec un grand « et », se doit d'être là pour les citoyens et les citoyennes et non pour les lobbies et leurs maîtres. Climat Québec propose que tous les projets soient analysés sous le prisme du climat. Alors, c'est pas fou, hein? C'est une bonne idée. Fait que, en conclusion, la CAQ fait d'une pierre et même deux et même trois coups. Elle favorise les lobbies industriels en leur octroyant des blocs d'électricité verte dont ils se vanteront dans leur marketing. Ces mêmes lobbies profiteront de subventions déguisées en payant l'électricité beaucoup moins chère. Fait que l'instrumentalisation de la transition énergétique par le gouvernement de la CAQ au profit des lobbies doit être énoncée et mise en échec. Notre électricité verte ne doit pas servir d'appétit insatiable des usines, qu'elles soient québécoises ou états-uniennes. Dans cette perspective, le projet éolien des neiges doit être abandonné et il ne passe pas du tout le test du prisme climatique. Bon, alors c'était Climat Québec. Concernant l'énergie, fait que le dossier énergie s'est terminé. Une douzaine de minutes pour le dossier agricole. Je me réfère encore une fois à l'approche Climat Québec. Dans leur site Internet, il y a une description de la politique que serait que ferait finalement le gouvernement Climat Québec s'il était élu. Elle dit que l'agriculture est à la société ce que manger est à l'individu, indispensable et prioritaire. Ainsi, Climat Québec considère ce domaine d'activité comme le socle sur lequel nous devons nous appuyer en tant que peuple afin de réaliser nos ambitions. C'est avec toutes les considérations présentées depuis le début de ce document que Climat Québec désire présenter sa vision de l'agriculture du futur et qui permettra de mieux vivre de l'agriculture, mieux cohabiter avec la nature, mieux épauler le milieu agricole et mieux nourrir sa population. J'ai demandé à Roméo Bouchard ce qu'il en pensait parce que, tout d'abord, M. Bouchard, c'est un intellectuel très instruit. Ensuite, il écrit très bien. Et surtout, il a été paysan, il a été fermier biologique. Il a élevé une famille avec cette compétence-là. Alors, il a un savoir duquel on peut s'inspirer. Il y a un article de Thomas Gerbert, est-ce la presse? C'est à Radio-Canada, à propos d'un lobbyiste de l'agrochimie qui dirigera l'Ordre des agronomes du Québec. Alors, un promoteur de l'industrie agrochimique, les pesticides et les engrais va prendre la direction de l'Ordre des agronomes du Québec. Nous dit Thomas Gerbet le 25 mars dans les nouvelles de Radio-Canada. Alors, évidemment, il y a l'agronome Louis Robert qui a écrit un livre dont je vous ai déjà parlé aussi, là. Monsieur Robert, c'est un lanceur d'alerte. Lui avait dénoncé l'obligation pour les agronomes de prêcher en faveur des pesticides. Il a été congédié, mais suite à la pression du public, il a été réengagé. Depuis ce temps-là, il a pris sa retraite. Mais il a écrit un livre là, sur l'agriculture que je vous suggère de lire. Et selon l'agronome Louis Robert, le code de déontologie actuel est très bien tel qu'il est. Il n'est juste pas appliqué pour les agronomes. Fait que 25 ans après, vendredi, pardon, 5 ans après son congédiement, puis sa réintégration avec des excuses du premier ministre Legault, Louis Robert a été ovationné après avoir pris la parole lors d'un forum à l'occasion de la Journée nationale des lanceurs d'alerte. Il a raconté son expérience douloureuse mais nécessaire qui a contribué à faire changer des pratiques, même s'il estime ces changements insuffisants. Il s'est présenté à la direction de l'Ordre des agronomes, puis il n'a pas été élu. Fait que, aussi, il y a la vigilance OGM, Attaque Québec, et mon OSBL n'est pas un lobby. Ça, c'est le nom d'un organisme. Mon OSBL n'est pas un lobby. Ils ont organisé une conférence de presse où ils font signer une déclaration pour empêcher les pesticides, n'est-ce pas? Fait que la déclaration, ça s'appelle « Lobby halte au dérapage », que je vous suggère de signer. Fait que, Roméo Bouchard, j'y reviens encore, il a écrit... pour une fois, j'ai quelqu'un dans le studio avec moi qui me distrait en me parlant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire.
Quoi?
OK, elle dit qu'on entend le sac que je touche dans ma poche. OK. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Fait que Roméo Bouchard dit dans son site à propos de la crise agricole, des causes et des solutions à la crise agricole. On parle beaucoup de la chute dramatique des revenus des agriculteurs, mais on analyse peu les causes profondes et encore moins les solutions durables. J'ai expliqué à plusieurs reprises que le modèle agricole actuel qui s'effondre est celui qui a été mis en place pour la mondialisation et le libre-échange, incluant les produits agricoles, ce qu'on a appelé au début des années 90 la conquête des marchés mondiaux. Ce marché-là, libre-échange, on sait que Mulroney y a participé. Tout le monde adule Mulroney, mais Roméo Bouchard est loin de l'aduler dans ce sens-là parce que le libre-échange est un échec qui a fait que la pauvreté des agriculteurs. Ce modèle est en train de détruire les agricultures nationales, même les agriculteurs qui ont investi des millions pour être en mesure de compétitionner sur les marchés des mondiaux. La compétition s'avère pipée d'avance, déloyale et fatale pour les agriculteurs, car les multinationales agroalimentaires sont les seules à en profiter. Nos supermarchés en sont l'illustration évidente. Si on veut s'attaquer aux racines du problème, il faut rebâtir nos agricultures nationales et locales. Il n'y a pas d'autre solution. L'alimentation d'un peuple doit être en rapport avec son territoire, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Alors, tu sais, l'agriculture locale, là, ça s'appelle le locavorisme. Et Slow Food est un exemple. Puis vous avez des livres là-dessus. Là, lui, il dit deux phrases. Mais ça peut correspondre à 10 livres. Alors, concrètement, cela veut dire au Québec, premièrement, il a... 8 choses, là. 9. Je ne veux pas vous endormir, mais on a le temps. Tu sais? Fait que c'est important. Ça va me permettre de, je pense, clore. Au lieu de m'étendre là, 4-5 fois sur l'agriculture, là, je vais clore avec lui, Roméo Bouchard. Il y a un article qui s'appelle « Des gaz à effet de serre dans mon assiette », point d'interrogation. Vous pouvez consulter ça. Puis il y a aussi un article qui « Armer les villes contre la faim ». Nous sommes une ville, la faim dans les villes, il faut la combattre. Vous avez ville nourricière ici à Sherbrooke. Et vous avez eu hier une rencontre sur l'agriculture urbaine au Café 440. Éric Duchemin de Montréal est venu nous parler de Montréal, mais il vient de l'Abitibi, comme moi, je le sais. Fait que si vous allez voir ville nourricière, là, rêve nourricier de Sherbrooke, peut-être que vous allez avoir un compte-rendu de ta conférence d'hier. Pour rendre notre agriculture locale, c'est-à-dire de proximité, et santé, autant dans la ville qu'à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire dans notre territoire agricole, qui, je le rappelle, est immense, hein, 37 %, et qui, je le rappelle aussi, j'ai suggéré qu'il soit agroécologique. Et puis, pour le rendre agroécologique, je pense que nous avons besoin du Centre québécois pour le droit de l'environnement, qui va nous aider à comprendre clairement la loi de l'urbanisme. Alors, citoyens et citoyennes, consultez ça comme il faut si vous voulez une agriculture viable pour bien nous nourrir, pour garder notre santé. Puis c'est d'autant plus important de garder notre santé que il y a comme un effondrement partiel de notre système de santé où il y a, comme à Malartic, une omerta. Et comme dans le système d'éducation, une omerta aussi. Et comme la loi des mines. Autrement dit, il y a quatre endroits au Québec là, où c'est assez totalitaire. Apparemment, nous sommes dans une société démocratique, mais il y a un déficit démocratique, au moins sur la loi des mines, qu'on ne peut changer. En éducation, si vous critiquez, vous pouvez perdre votre emploi. En santé aussi. Et je viens de perdre le quatrième. Là. Ben, en agriculture, tu sais, en tout cas. Fait que là, je reviens à Roméo Bouchard qui nous dit qu'il faudrait sortir de la production porcine d'exportation. Puis je pense que l'UPA n'aimerait pas ça, tu sais, parce que l'UPA est là juste pour protéger les très gros riches producteurs de porc. Il faut sortir de l'agriculture des ententes de libre-échange. Il faut repenser le financement agricole, particulièrement l'ASRA, l'assurance stabilisation du revenu agricole. Qui connaît ça ici? Moi, je ne le connaissais pas, puis c'est grâce à Roméo Bouchard que j'en apprends. Et puis à l'université, les gens intellectuellement non agricoles se doivent de lire ses écrits, lire sur l'agriculture. Il faut aussi prioriser le développement de l'agriculture résolument biologique et écologique plutôt que des mesures de soutien aléatoires à l'adoption de pratiques agro-environnementales souvent illusoires. Également, il faut repenser les contingentements, les quotas et les plans conjoints de mise en marché collective de façon à favoriser des fermes diversifiées dans chaque région du Québec, plutôt que la concentration de la production dans des fermes de moins en moins nombreuses et dans des régions centrales du Québec. Présentement, les quotas vont aux plus offrants, donc aux plus gros. Dans le film Malartic, justement, il y avait une critique des plus gros, qui c'est le droit du plus fort. Il y a un livre là-dessus, là, Le droit des plus forts, qui parle de déficit démocratique et de l'échec du droit. Et sixièmement, nous dit Roméo Bouchard dans « Que faire pour corriger l'agriculture, la crise agricole », il faut rétablir l'article 63 de la loi sur la mise en marché collective des produits agricoles qui spécifie clairement qu'un plan conjoint ne s'applique pas aux ventes faites par un producteur directement à un consommateur. L'article a été suspendu à la demande de l'UPA, ce qui limite considérablement les possibilités des agriculteurs de proximité. Septièmement, nous dit-il, c'est de repenser la gestion du zonage agricole de façon à favoriser l'établissement de fermes diversifiées et de petites industries de transformation dans toutes les régions du Québec, plutôt que de réserver la zone agricole à des grosses agricultures industrielles. Huitièmement, mettre en place un système d'abattoirs de proximité et un réseau d'abattoirs enregistrés pour faciliter l'autonomie en production de viande locale. Ça ne s'adresse pas aux végétariens, mais c'est pas grave. Fait que neuvièmement, c'est rétablir la liberté des agriculteurs d'adhérer à l'association représentative de leur choix, de façon à ce que tous les modèles de production agricole soient équitablement et efficacement représentés, contrairement à ce qui se produit avec le monopole syndical légalisé actuel. Nota bene, toutes ces recommandations et plusieurs autres sont déjà parfaitement décrites et opérationnalisées dans le fameux rapport Pronovo, publié en 2008 et, imaginez-vous, tabletté depuis, en raison du blocage systématique de l'UPA. Alors, j'espère que vous allez bien digérer ces paroles-là, qui sont tristes, qui montrent une certaine violence administrative et politique du Québec envers les citoyens qui ont faim d'une bonne nourriture. Alors, je termine cette émission avec ça. Et tu sais, cette émission, ça se veut un regard positif sur le futur, mais il ne faut pas oublier de regarder ce qui ne va pas bien. Et puis c'est en voyant ce qui va pas bien dans le présent qu'on peut, j'espère, l'améliorer. Fait que dans 4 secondes, ce sera 11h50 et ce sera terminé. C'est terminé maintenant. Merci. Ici Claude, à nous le futur. Bonjour à tous, à toutes. Bonne journée. Portez-vous bien. Bonne santé. Soyez heureux et heureuses. Cultivez-les votre bonheur, tu sais, comme les plantes. Et on va absorber les GES et on va absorber le malheur pour en faire du bonheur. Salut!